Et on se retrouve comme tous les matins, du lundi jusqu'au vendredi, sur la matinale de Radio Corse Internationale et de Télépaese, avec l'ensemble de nos invités, nos rubriques, l'information. Un grand bonjour à vous donc pour ce vendredi 17 avril.
Bonjour, salut à tous.
Si vous en
ça sent le week-end, les enfants. Ah, c'est vendredi, allez, plus que quelques heures, et puis vous allez pouvoir partir en week-end. En plus, le temps va se maintenir pour ce week-end. Du moins, je l'espère, on va voir ça avec Philippe dans un petit moment. Moi, pour mieux, c'est même parti pour. Allez, tiens, aujourd'hui, en ce vendredi 17 avril, on va souhaiter une très très bonne fête aux Alicés. Voilà donc pour ce début de matinale. Bon, j'espère que vous allez bien, hein. On va se faire un petit parcours ensemble de quelques bonnes minutes avec nos chroniqueurs, avec nos invités. Aujourd'hui, on va parler de sculpture. Après, avec Marie-Pierre, on va partir du côté des States, en Louisiane. Et puis, bien sûr, nos rubriques habituelles, les pronostics, l'horoscope, l'information, la météo. C'est pas de doute, toi. On reste avec nous donc pour cette matinale. Nous allons débuter avec le bulletin météo et l'information avec Philippe qui s'installe donc pour débuter la matinale.
Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé aujourd'hui, avec toutefois encore un petit bémol sur le relief dans l'après-midi, notamment dans les Deux-Sèvres ou encore l'Altaro, cas où des averses pourront se produire avec de la neige à partir de 2700 mètres. Le vent de nord-est sera parfois modéré sur le nord de l'île. Les températures maximales en dessus des normales de saison se situeront entre 22 et 25 degrés en bord de mer et de 15 à 21 degrés sur le relief. Un petit coup d'œil sur le week-end, Auguste, puisque je sais que vous avez un week-end très chargé. Peu de changements pour samedi et dimanche puisque le temps sera bien ensoleillé avec toujours un petit risque d'averse sur le relief. Le vent d'ouest sera modéré le long de la côte occidentale. Bonjour, un ouvrier portugais de 58 ans est décédé après une chute d'un toit à Lecce en Corse du Sud. L'homme se trouvait a priori seul sur le chantier au moment du drame. À Urtaca en Balagne, aux alentours de 17h, un accident de la circulation a fait 3 blessés, 3 personnes qui ont été transportées au centre hospitalier. Le tribunal correctionnel de Bastia a condamné hier un jeune homme de 20 ans à 12 mois de prison, dont 8 mois avec sursis probatoire de 2 ans et 4 mois à effectuer sous bracelet électronique pour détention, transport et trafic de stupéfiants. Mardi soir, à Bastia, en voulant se soustraire à un contrôle routier, il avait été arrêté par les CRS et lors de la fouille, ceux-ci avaient découvert 12 grammes de cocaïne dissimulée dans ses sous-vêtements. Le tribunal correctionnel de Bastia qui a également condamné une femme à 2 ans de prison, dont un avec sursis probatoire pour trafic de drogue. Elle avait été interpellée dans les quartiers sud de Bastia, mardi soir également, en possession de stupéfiants, puis placée en garde à vue. Une autre femme, présentée comme consommatrice, avait elle aussi été interpellée ce soir-là. Libérée à l'issue de son audition, elle sera convoquée prochainement devant la justice dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. L'examen du projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de l'île débutera à l'Assemblée nationale fin mai pour une inscription à l'ordre du jour dans l'hémicycle tout début du mois de juin. Gilles Simeone, en déplacement de 2 jours dans la capitale, a pu obtenir cette promesse après avoir rencontré successivement la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le Premier ministre Sébastien Lecornu. La direction de l'UDR, parti d'Éric Ciotti, a annoncé hier la suspension de l'adhésion d'Alexandre Guillaume Tolinki, élu à Ajaccio aux côtés de François Filoni, RN. Le maire de Nice a motivé sa décision par, je cite, « des prises de position publiques contraires aux orientations, alliances et soutiens arrêtés par l'UDR ». Selon une étude de l'INSEE en 2025 en Corse, l'indice de fécondité est de 1,12 enfants par femme, son plus bas niveau depuis 1975 et le plus faible de France. Cette chute entraîne bien sûr un recul marqué des naissances. En 2025, 2300 bébés sont nés en Corse, 1200 en Haute-Corse et 1100 en Corse du Sud. Il s'agit du nombre de naissances le plus bas enregistré depuis 1976, où notre île comptait alors un tiers d'habitants en moins qu'aujourd'hui. Dans le même temps, temps, la mortalité progresse sous l'effet du vieillissement de la population, creusant ainsi le déficit naturel, moins 1 200 habitants. Malgré tout, la population continue d'augmenter en raison de nombreux arrivées et retours. Au 1er janvier 2026, la Corse comptait 365 600 habitants, soit la croissance démographique la plus forte de France métropolitaine. Par arrêté ministériel du 14 avril, les supporters de l'AS Saint-Étienne sont interdits de déplacement individuel ou collectif samedi 18 avril entre les communes du département de la Loire et celles de Bastia et de Foriagne. Ce samedi, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 2, le Sporting Club de Bastia accueille en effet l'AS Saint-Étienne à 20h au stade Armand Cesari. Cette mesure a été prise face à un risque réel et sérieux de troubles à l'ordre public, soulignent les préfectures dans leur communiqué. Enfin, ce dimanche, la piscine Jean-Nicolas Ciccone à Ajaccio abritera la 5e édition du championnat régional d'apnée en bassin. Cette compétition sélective pour le championnat de France comportera 5 épreuves: statique, dynamique monopalme, dynamique bipalme, dynamique sans palme et une épreuve d'endurance.
Merci Philippe. Allez, je vous retrouve dans un petit moment. On va faire de la sculpture avec notre sculpteur insulaire. Donc, ce sera notre invité aujourd'hui. Pour l'instant, un petit détour sur les hippodromes avec Rémi pour les pronostics du jour. On vous rappelle une fois de plus que les amateurs de course hippique sont attendus à Vignette. Donc, pour ce week-end, pour dimanche, à partir de 14h. Donc, pour une très très belle réunion, la première réunion de la saison sur l'hippodrome donc, de la cité impériale. Mais pour l'instant, ci andiamo in continente, on va faire un peu nos pronostics de ce jour.
Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 2 Cano qui ne devrait pas sortir des trois premiers. Passons à la seconde course où le 9 Impala de Val devrait l'emporter, tout comme dans la quatrième, le numéro 6 Carambar. Bon jeu à tous.
Bien, allez, je vous attends sur Ajaccio ce dimanche. Si vous aimez les courses de chevaux, et puis vous allez voir, il y a plein d'animations. Vous pouvez venir en famille, vous pouvez vous restaurer sur place. C'est vraiment un moment très agréable. On poursuit cette fois-ci avec l'horoscope. Voilà, l'horoscope du vendredi et qui va vous mener donc jusqu'à ce week-end.
Et bonjour à tous. On va voir pour ce vendredi ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, pour avoir des actions concrètes et pertinentes, écoutez vos ressentis et justement, écoutez aussi vos envies profondes. Les taureaux, vous pourriez faire des choix très ingénieux qui pourraient vous apporter de belles réussites et vous allez également vous diriger vers des situations qui vont vous apprendre beaucoup de choses. Les Gémeaux, vous serez amenés aujourd'hui à trouver l'équilibre entre votre envie d'apporter et votre envie de maîtriser les choses. C'est possible, faites preuve de patience et d'indulgence envers vous-même. Les Cancers, vous allez vous sentir particulièrement pensif aujourd'hui, ne vous prenez pas trop la tête, prenez les choses avec plus de recul. Les Lions, aujourd'hui vous pourriez avoir envie de vous accorder du temps pour votre propre personne et faire des activités qui vous plaisent. Les Vierges, pour retrouver un équilibre et un bien-être personnel, vous pourriez être amené à faire face à des situations qui peut-être n'ont pas été dans vos priorités jusqu'à présent. En tout cas, aujourd'hui, vous pouvez régler certaines choses qui peut-être traînent un peu. Les Balances. Par moment, quand on veut que les choses changent, il faut laisser certaines choses repartir au passé. Faites table rase de ce qui est beaucoup trop vieux et non adapté à votre situation actuelle et n'hésitez pas à inciter le changement en le créant. Les Scorpions, vos actions vont être très efficaces et en plus de ça, vous n'allez pas vous laisser faire. En tout cas, faites preuve d'organisation et tout se passera bien. Les Sagittaires, vous allez avoir des possibilités qui vous permettront d'en finir avec une situation peu confortable. Les Capricornes, vous savez ce que vous voulez et comment vous voulez les choses. Vous avez certainement eu beaucoup de temps de réflexion pour cela. Et justement, ça vous permettra d'avoir des idées novatrices. Les Verseaux, vous pouvez vous sentir avec un petit moral aujourd'hui. Au niveau émotionnel, on n'est pas forcément dans la plus grande des humeurs. Hein. Le bonheur n'est pas toujours au rendez-vous. Il est peut-être temps aujourd'hui de s'écouter et de voir qu'est-ce qui vous peine. Et enfin, les Poissons, prenez du recul et essayez de visualiser les possibilités ou les prochaines étapes par rapport à un projet qui est important à vos yeux. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt.
Merci Paxi, on vous retrouve lundi. Pour l'instant, notre sculpteur, voilà, il nous vient du côté de Vignale et une exposition qui va avoir lieu dans quelques jours, donc n'hésitez pas donc, à y faire un petit détour. Et on le retrouve, bien sûr, sur le plateau de Radio Corse International.
Notre invité aujourd'hui, l'artiste-sculpteur Cyril Machon, il exposera à partir du 1er mai à Porticcio. Cyril, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, qui vous découvrent aujourd'hui, un petit mot sur votre cursus, un parcours un petit peu atypique.
Oui, mon parcours, il est assez atypique. Si on va remonter très loin, ça risque de prendre du temps.
On va y aller. Donc, on va partir de l'université, allez.
L'université, alors on y va, on part de l'université. Bon, alors l'université, j'ai eu effectivement un parcours assez atypique, puisque je suis arrivé pour y faire un DEUG italien. Mais finalement, j'ai basculé vers une licence en sciences de l'éducation et une maîtrise en sciences de l'éducation, pour ensuite aboutir sur un DEA d'échange linguistique et interculturel méditerranéen. Le terme étant un peu barbare, mais il reflète, je dirais, quelque part, mon incapacité à choisir à l'époque et ne pas savoir ce que je voulais faire, en fait, dans mes études. Donc, j'ai fini mes études avec ce bagage, mais je ne savais pas pour autant ce que j'allais faire dans la vie. J'ai eu une opportunité qui s'est présentée, je l'ai saisie. C'était celle de faire du mannequinat pendant 4-5 ans. Ça m'a permis de voyager, de m'ouvrir des portes, de voir de nouveaux horizons. Et ensuite, j'ai eu d'autres petits boulots.
J'ai été pompier aussi.
Oui, j'ai été pompier en parallèle, mais ça, c'était avant la faculté. Ça s'est arrêté, presque à la fin de la faculté. Oui, j'ai été pompier de 91 à 2001. Voilà, donc pendant 10 ans, j'ai failli en faire ma vocation. Ça s'est joué à pas grand chose.
Et la sculpture, voilà. Alors comment vous l'avez découverte ?
La sculpture, j'ai envie de dire, je la pratiquais déjà étant tout petit. Je la pratiquais sans même savoir que c'était de la sculpture, en fait. Quand j'avais 4 ans, 5 ans, je faisais des petits objets avec, à l'époque, les Lego, les mécanos, des objets qu'on n'était pas censé pouvoir réaliser. Et je détournais déjà le matériau de sa fonction première, je vais dire. Voilà. Et c'est ce qui s'est après... je dirais, manifesté dans mes premiers travaux. Donc oui, la sculpture, en fait, j'ai toujours été très créatif, on va dire. Voilà, je réalisais plein de choses quand j'étais enfant, plus tard, quand j'étais adolescent, également, avec les amis, les vélos, tout ça, je bricolais souvent. Après, ça a été les voitures. Et j'ai toujours été très créatif, très bricoleur. J'aime la mécanique, j'aime la technique, j'aime réaliser des choses. Et donc, ça m'a suivi, je dirais, tout au long de ma vie, mais sans ne serait-ce que m'effleurer l'esprit de pouvoir en faire mon activité, un métier. Pour moi, c'était juste un hobby. C'était juste quelque chose que j'aimais faire, une passion, voilà. Mmh. Et des années plus tard, lorsque, à un moment donné, j'ai eu, je crois que c'était à peu près à l'âge de 35 ans, j'ai eu l'opportunité de commencer à réaliser des meubles, en fait. Mm-hmm. Étant jeune marié, j'ai commencé à réaliser des meubles pour nous, pour mon épouse et moi. Et ça a germé, j'ai commencé à réaliser plein de choses et j'ai commencé à voir que je m'améliorais, que je pouvais créer des choses, aller plus loin. Et à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de passer à la sculpture, tout simplement. Ça s'est fait assez naturellement. J'ai ressenti ce besoin, j'ai essayé. Les premières étaient très rudimentaires, elles étaient très géométriques. Mais c'est comme ça que j'ai commencé, en fait.
Il y a cette fameuse tortue que vous avez réalisée pour Vignal, entre autres.
Oui, la tortue de Vignal, la tortue bleue, qui a été réalisée en 2024. Mm-hmm. Ça a été, je dirais, la commande publique, la première œuvre, je dirais, avant le parcours artistique. C'est la face émergée de l'iceberg, hein, qui annonce la couleur quelque part, qui annonce le thème du parcours artistique qui s'en est suivi derrière sur le village de Vignale.
Alors, nouvelle exposition donc du 1er mai au 31 octobre à Portici, au domaine Terra di Gaia. Une exposition qui est composée surtout d'animaux, c'est ça ?
Alors oui, là c'est une exposition qui est composée à 100% d'animaux. On y retrouvera 14 sculptures, des monumentales, des moyennes, des petites, pour une exposition qui va durer 6 mois, avec de nombreux partenaires. Donc 14 sculptures, le thème dominant est la rouille. Chaque œuvre est volontairement rouillée à divers degrés. Donc on pourra, je dirais, apprécier cette nouvelle finition la voir en vrai à partir du 1er mai.
C'est symbolique, cette rouille aussi. Hein.
Cette rouille est tout à fait, oui, tout à fait. Cette rouille est symbolique puisque cette rouille est en fait la métaphore d'un monde qui change. La métaphore, elle est assimilée pour moi à la peau des animaux qui évolue, qui réagit en fonction des agressions que le monde leur fait subir. Donc la rouille est une réaction à ces agressions. Elle évolue donc avec le temps. Elle est aussi la rouille, elle est là aussi parce que les animaux, les oubliés, il ne faut pas oublier le titre, les oubliés, ce sont des animaux qu'on a oubliés, ils sont relégués, on ne s'intéresse pratiquement plus à eux, leur monde est de plus en plus réduit, leur territoire est réduit, ils sont soit chassés, ils sont soit en voie d'extinction, soit maltraités aussi. Donc le nom résonne avec les oubliés, la rouille. J'ai trouvé que la rouille était intéressant, l'image de la rouille, c'est-à-dire cette oxydation qui se manifeste en surface et qui va avec le temps s'accentuer. J'ai trouvé ça intéressant comme thème de développer cette idée.
Comment vous le trouvez, vous le récupérez
Alors la rouille, non, je la crée moi-même. Ce sont des œuvres qui sont réalisées de façon traditionnelle, c'est-à-dire selon la même technique que j'ai toujours employée, soit en résine de coulée, soit en stratification, tantôt coulée, tantôt taillée dans la masse, ça dépend de la taille de l'œuvre. Mais dessus, j'applique une finition métallisée que je vais ensuite oxyder moi-même. Et en fait, on a une apparition de rouille qui se fait grâce à l'aide de produits utilisés qui vont favoriser son développement.
Il y aura combien d'œuvres à peu près ?
Il y aura 14 œuvres, 5 monumentales, 2 moyennes et 7 petites.
Qu'est-ce qu'il y a comme animaux ?
Alors, on va y retrouver notamment un lion, un requin, un loup, un grizzly. On va y retrouver une panthère, on va y retrouver qu'est-ce qu'il y a d'autre, panthère, il y a le petit lion. Après on va retrouver des sculptures qu'on a en grand format, mais on va les avoir aussi en petit format. On a le gorille, voilà, et j'en oublie parce qu'il y en a.
Alors justement, c'est un clin d'œil aussi à une association, l'ONG WWF.
Voilà, oui, bien entendu, mon collaborateur principal, mon partenaire principal sur cette exposition, c'est le WWF. À qui je vais reverser un pourcentage des ventes des œuvres qui sont vendues pendant l'exposition. Donc c'est important pour moi, ça me permet, c'était pour moi l'idée d'aller plus loin dans ma démarche, ça me permet d'aller plus loin, je voulais être plus cohérent dans ma démarche et faire quelque chose de plus concret. En fait, puisque depuis des années, j'essaye de sensibiliser au sujet du sort des animaux, quant au sort des animaux. Et là, je voulais aller plus loin, je voulais manifester vraiment une aide vraiment plus concrète.
Et il y a aussi un autre clin d'œil, c'est que si vous exposez au domaine Terra di Gaia et à Porticcio, c'est pas par hasard aussi.
Non, du tout, c'est pas par hasard, puisque en fait, c'est un domaine qui est 100% autonome, dont la démarche, je dirais, s'inscrit vraiment en parallèle de la mienne. On va dans le même sens. Par exemple, ils produisent eux-mêmes leur électricité, ils ont leur puits, ils ont des animaux sur le domaine, plusieurs animaux. On est dans une démarche vraiment éco-responsable. Mmh. Et donc, c'est ce qui m'a touché. Et je pense que c'était important de faire une exposition avec un partenaire et que ce partenaire soit en parfaite cohérence avec le sujet de l'exposition. D'autant plus voilà, qu'il y a le WWF et que tous les gens qui se sont investis, tous les autres collaborateurs qui sont investis dans ce projet ont respecté cette charte. Je veux dire, ils sont là parce qu'ils sont dans le respect de cette charte, notamment les hôtes de Zille qui m'ont créé une bouteille en verre. Voilà, il n'y aura pas de plastique. Les traiteurs qui vont apporter, par exemple, une nourriture, il n'y aura pas de viande. On a une nourriture qui sera plus... on ne va pas dire le mot vegan, pas obligatoirement vegan, mais on aura une nourriture plus respectueuse.
Alors, cette exposition, donc, elle aura lieu du 1er mai au 31 octobre à Portici, au domaine Terra di Gaia. Il y a déjà d'autres projets ?
Oui, il y a d'autres projets. L'année est bouclée complètement jusqu'en début 2027. Donc, il y a d'autres projets où il y a une exposition personnelle qui arrive au début juin à Saint-Florent, à l'atelier de Caux. Il y aura une exposition avec une agence immobilière, Barnes, qui se fera dans le courant du mois de juin également. Il y a également en fin d'année une très grosse exposition pour moi à Monaco avec une rétrospective sur ma période 2016-2026. Donc ce sera une très grosse exposition parce que j'aurai l'opportunité d'exposer dans une salle de 200 mètres carrés. Ouais. Il y aura une cinquantaine d'œuvres. Ça va durer plus de 15 jours.
Il n'y aura pas que des animaux.
Il y aura toutes les périodes que j'ai abordées dans mon travail durant ces 10 dernières années. On a choisi la période 2016-2026. On y retrouvera donc les premières sculptures, le noir, les couleurs, les craquelures, les transparentes et maintenant la rouille. Voilà, toutes ces périodes charnières.
Et vous travaillez toujours du côté de Vignal, c'est ça ?
Toujours, oui, dans mon atelier là-haut.
Ça, c'est un lieu inspirant aussi ?
Oui, bien sûr. Le lieu a son importance. La nature permet de garder le contact et d'être toujours dans le même état d'esprit. Cet esprit proche de l'environnement, soucieux de l'environnement. Voilà la petite anecdote. Ces jours-ci, on est au printemps, donc je vois souvent passer des tortues juste à côté de l'atelier, plus ou moins grosses, des petites, des grosses. Donc c'est toujours amusant. On a ce lien en permanence avec la nature, justement, qui me permet justement tout le temps de rester très centré sur cette démarche, qui me permet aussi, qui est très inspirant. Et voilà, donc c'est quelque chose que je vis au quotidien et que j'adore parce que voilà, c'est très motivant, c'est très inspirant.
Cyril, merci beaucoup. On rappelle donc cette exposition du 1er mai au 31 octobre, donc au domaine Terra di Gaia à Portici. Merci Cyril, à bientôt.
Merci à vous.
Merci Philippe. Merci à notre sculpteur et puis n'hésitez pas à aller voir donc l'ensemble de ses œuvres. On se refait un petit point sur les titres de l'information, Philippe, pour un petit point donc pour l'information du jour et ainsi que le bulletin météo.
Un ouvrier portugais de 58 ans est décédé après une chute d'un toit à Lecce en Corse du Sud. Le tribunal correctionnel de Bastia a condamné un jeune homme de 20 ans à 12 mois de prison, dont 8 mois avec sursis probatoire de 2 ans et 4 mois à effectuer sous bracelet électronique pour détention, transport et trafic de stupéfiants. Ce même tribunal correctionnel qui a également condamné une femme à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis probatoire, toujours dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. L'examen du projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de notre île débutera à l'Assemblée nationale fin mai pour une inscription à l'ordre du jour dans l'hémicycle au tout début du mois de juin. Selon une étude de l'INSEE, en 2025, en Corse, l'indice de fécondité est de 1,12 enfants par femme, son plus bas niveau depuis 1975. Météo, c'est du soleil en bord de mer qui va régner ce week-end. Quelques averses sont toutefois prévues en montagne.
Merci et bon week-end, Philippe. Voilà, donc on se retrouve cette fois-ci avec Marie-Pierre Samani qui nous emmène à notre thèse de l'air en Louisiane. On ne va pas rencontrer Trump, ne vous inquiétez pas.
Bonjour et bienvenue dans notre chronique en roue libre. On part comme d'habitude à la découverte d'une nouvelle région des États-Unis et aujourd'hui, c'est la Louisiane. La Louisiane, traversée par le Mississippi, ne ressemble à aucune autre. Ici, tout est lié à l'eau et la nature y est magnifique, certes, mais instable, ce qui rend la région particulièrement vulnérable aux ouragans. Certaines zones, notamment autour de la Nouvelle-Orléans, sont sous le niveau de la mer et les inondations font partie de l'histoire. Même les cimetières sont souvent hors sol, ce qui est peu commun aux États-Unis, parce que la terre est trop humide pour y enterrer les morts. Et l'histoire humaine y est tout aussi complexe. La Louisiane a d'abord été française, puis espagnole, puis de nouveau française avant d'être vendue aux États-Unis par Napoléon en 1803. Résultat, un territoire profondément mélangé où se sont formées deux grandes identités culturelles, les créoles et les cajuns. Le terme créole désigne des personnes nées dans la colonie, sans distinction de couleur de peau, par opposition aux Européens nés en Europe. Les créoles sont souvent urbains, francophones, catholiques et très présents à la Nouvelle-Orléans. Les Cajuns, eux, descendent des Acadiens, expulsés du Canada par les Britanniques lors du Grand Dérangement à partir de 1755. Installés dans les zones rurales et les marais, ils développent une culture propre, tournée vers la pêche, l'agriculture et la vie communautaire. À ces deux héritages et à celui des natifs américains, se mélangent influences africaines, caribéennes, et c'est ce métissage qui va conditionner toute l'histoire culturelle de la Louisiane. Mais derrière les paysages fascinants, il y a une réalité sombre sur laquelle la région s'est construite, celle des plantations et de l'esclavage. À partir du XVIIIe siècle, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont arrachés à l'Afrique de l'Ouest, transportés de force par bateau, puis vendus comme main-d'œuvre gratuite destinée aux plantations de coton et de canne à sucre. Et ces lieux racontent aujourd'hui deux histoires différentes. D'un côté, celle des propriétaires. Les grandes maisons coloniales et les allées bordées d'arbres montrent un sud élégant, presque romantique. Et c'est cette image qu'on retrouve dans le cinéma, notamment dans le film Entretien avec un vampire, tourné en partie dans une vraie plantation au Calais. Une vision esthétique, nostalgique, mais centrée sur les dominants. À la Laura Plantation, on raconte l'histoire de plusieurs générations de femmes créoles qui ont dirigé ces domaines. Des femmes prises dans un système violent qu'elles ont tout autant subi que contribué à faire fonctionner. Et puis il y a l'autre côté, celle des personnes opprimées. À la Whitney Plantation, le regard change complètement. Ici, on parle des esclaves, de leur nom, de leur vie et de leur mort en leur redonnant une identité et en leur rendant hommage. Dans le film 12 Years a Slave, on suit l'histoire d'un homme noir né libre dans l'État de New York qui, attiré par une fausse promesse d'emploi, est enlevé puis vendu dans les plantations. Pendant des années, il cherche de l'aide, écrit des lettres en secret, prend des risques et finit par réussir à être libéré grâce à l'aide d'un charpentier canadien abolitionniste après 12 ans de captivité. C'est une histoire vraie, mais son cas reste exceptionnel. La plupart des esclaves n'ont jamais retrouvé leur liberté. L'esclavage a fini par être aboli aux États-Unis en 1865, après la guerre de sécession et l'adoption du 13e amendement, mais dans le Sud, les inégalités raciales et économiques perdurent. Cette période de transition, instable et tendue, continue d'inspirer la fiction et on retrouve d'ailleurs ce climat lourd et ses institutions marquées par la ségrégation et l'injustice dans le film La Ligne Verte, tiré du roman éponyme de Stephen King. Côté jeux vidéo, dans Red Dead Redemption 2, la région devient Les Moines et Saint-Denis nous rappelle la Nouvelle-Orléans du 19e siècle, une ville moderne qui marque la fin du Far West et le début d'un autre monde. Et maintenant, petit conseil aux gamers, si un homme louche vous invite dans les marais, déclinez. Blague à part, ce que montre le jeu, comme beaucoup de fictions, c'est aussi l'importance des marges. Des espaces loin des villes, loin du pouvoir, des lieux où l'histoire laisse place aux légendes, et en Louisiane, ces lieux ont un nom, les bayous. Un bayou, c'est un bras d'eau lent issu du Mississippi. L'eau y stagne, la végétation est dense et les habitations sont souvent isolées. Ces territoires, longtemps restés à l'écart, ont nourri un imaginaire particulier, marqué par la solitude, la précarité et le repli sur soi. La série True Detective saison 1, dont l'enquête se déroule entre marais, zones industrielles abandonnées et petites communautés fermées, illustre ce sud rural marginalisé, marqué par la religion, la pauvreté et l'absence de perspective. Dans un registre plus fantastique, la série True Blood transforme le bayou en territoire de créatures démystifiées et de conflits entre communautés. Et vous l'aurez remarqué, la Louisiane est souvent associée aux vampires et ce n'est pas un hasard. entre héritage européen et culture catholique, les caveaux hors sol, l'histoire violente et la culture nocturne, pas étonnant que la ville se prête naturellement au récit d'être entre deux mondes. Mais derrière le surnaturel, on retrouve des thèmes très concrets. La peur de l'autre, les rapports de pouvoir, les tensions sociales et les croyances diverses, c'est entre histoire et mythe qu'une spiritualité particulière s'est développée, le vaudou. C'est une pratique religieuse issue des traditions d'Afrique de l'Ouest, développée en Louisiane pendant la période esclavagiste. Le vaudou sert alors à préserver une identité, à créer du lien et à résister culturellement. À la Nouvelle-Orléans, il est notamment incarné par Marie Laveau, figure historique du 19e siècle, à la fois guérisseuse, chef spirituel et femme influente. On la retrouve d'ailleurs dans la série American Horror Story Coven, où son personnage est revisité à travers une rivalité entre vaudou et sorcière, sur fond d'héritage colonial et racial. La ville y devient un territoire hanté par son passé. Mais contrairement au cliché, le vaudou n'est pas centré sur la magie noire, il repose sur des rituels, des prières, des plantes médicinales et une relation aux ancêtres. Il a longtemps été marginalisé, surveillé, parfois réprimé, avant d'être récupéré comme élément folklorique, notamment à des fins touristiques. C'est le côté sombre du vaudou qu'on retrouve dans le film d'Alan Parker, Angel Heart, où l'on suit un détective incarné par Mickey Rourke face à un Robert De Niro aussi énigmatique qu'inquiétant. Plus l'enquête progresse, et plus la frontière entre réalité et surnaturel s'efface. La ville devient un labyrinthe de peur et de zones grises dans une atmosphère moite et suffocante. Mais il n'y a pas que les œuvres sombres qui ont mis la Louisiane en lumière, car c'est aussi ici que Disney a choisi d'installer l'histoire de son premier film avec une héroïne afro-américaine, La Princesse et la Grenouille. Luciole, musique, parade et vaudou adouci, la région y apparaît comme un territoire magique ancré dans une ville réelle et non dans un royaume fictif. De cette histoire, de ses croyances et de ses résistances est née une culture musicale dont le berceau est la ville de la Nouvelle-Orléans, le jazz. Dans les années 1900, des musiciens issus des communautés noires et créoles mélangent fanfare, blues, chants religieux, rythmes africains et répertoires classiques européens. Bercés dans les saloons et les quartiers populaires de la ville, notamment Astoryville, connue pour ses maisons closes et sa vie nocturne, cette musique à la réputation sulfureuse accompagne les bals, les parades et les rassemblements. Et même lorsqu'il conquiert les cabarets de Chicago et de New York, lors de la migration des musiciens vers le nord, le jazz reste lié à ces lieux et à ces figures peu respectables aux yeux de la société dominante. Il faudra attendre le succès de ses premiers grands artistes pour qu'il gagne une véritable reconnaissance, et l'un de ses musiciens, c'est Louis Armstrong. Né en 1901 dans un quartier pauvre de la ville, il apprend la trompette dans un centre pour mineurs, puis dans les brass bands avant de jouer dans des clubs. Au fil du temps, il devient l'une des figures majeures du jazz. Son timbre de voix, son jeu virtuose et son charisme sur scène forgent sa renommée internationale. Il popularise aussi le scat, un style vocal fondé sur l'improvisation. Avec lui, le jazz quitte les rues de la Nouvelle-Orléans pour devenir une musique mondiale. La culture de Nola, un des diminutifs de la ville, se retrouve jusque dans ses transports. La ville possède l'un des plus anciens réseaux de tramways encore en service, notamment la ligne Saint-Charles en activité depuis le 19e siècle. Ces wagons verts en bois traversent les quartiers historiques et font partie du paysage. Il existait d'ailleurs à l'époque une ligne appelée Desire qui desservait le quartier du même nom, et c'est bien elle qui donne son nom à la pièce de Tennessee Williams, un tramway nommé Désir, adapté au cinéma par Elia Kazan. Le film, qui révéla un certain Marlon Brando, alors peu connu au moment de la pièce, introduit au cinéma une expression beaucoup plus directe du désir, des tensions intimes et des rapports de domination, jusque-là rarement montrés à l'écran, et popularise le jeu issu de l'Actor Studio. Autre incontournable, le Mardi Gras. Hérité des fêtes européennes, puis transformé par les communautés locales, il repose sur des défilés organisés par des groupes appelés « crews » qui préparent leurs chars, leurs costumes et leurs parcours. Pendant les parades, on lance à la foule des colliers de perles devenus un symbole de la fête. Le quartier français et les grandes avenues deviennent alors le centre des célébrations, et ce n'est pas qu'un événement touristique, c'est un rituel collectif. Mais en 2005, cette ville si vivante est frappée par l'ouragan Katrina. Les digues fédérales cèdent, des quartiers entiers sont inondés et des milliers d'habitants sont déplacés. Beaucoup ne reviendront jamais. Cette période est racontée dans la série Trémé qui suit des musiciens, membres du même groupe, tentant de reconstruire leur vie après cette catastrophe. Elle montre une ville fragilisée, mais portée par sa culture. À la Nouvelle-Orléans, la musique, la fête et la mémoire deviennent des formes de résistance et en Louisiane, rien n'est décoratif. Tout vient d'une histoire difficile, transformée en identité, et c'est pour ça qu'elle ne ressemble à aucune autre. C'est terminé pour cette chronique, on se retrouve bientôt et comme on dit là-bas, laissez les bons temps rouler.
Merci Marie-Pierre, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur RCI et sur Télépaèse. Je vous rappelle que si vous voulez continuer à nous suivre, bien sûr, Télépaèse, vous l'avez sur la TNT, sur les box. Pour ce qui est de Radio Corse International, vous pourrez le suivre puisqu'on est en web radio sur l'ensemble des plateformes, ainsi que la plateforme de Radio Corse International. Si vous voulez vous connecter, c'est tout simple, rci.websiteradio.co. Là, vous avez la radio en direct, vous avez les podcasts et en plus, vous avez aussi les replays des matinales. Voilà. Et les replays qu'on retrouve aussi sur Télépaèse et sur Stampapaèse. Voilà. Que dire de mieux? Voilà, donc, passez un très bon week-end. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à lundi matin. Tini de vurte.
Bonjour, salut à tous.
À la prochaine.
Si vous aimerez.